Merci d'avoir téléchargé cette émission d'Au fil du savoir. Retrouvez toutes nos émissions sur aufildusavoir.fr. L'univers est vaste, oui, mais de combien exactement? Pour répondre à cette question, il faut établir des repères. Cette tâche est rendue difficile par le fait que le ciel nous apparaît en deux dimensions et qu'il n'y a rien de plus semblable à un point lumineux qu'un autre point lumineux. Un point lumineux lointain apparaîtra proche, car énorme, alors qu'un autre point, tout aussi lumineux, sera beaucoup plus près et donc petit. Pour remédier à ce problème, les astronomes ont dû trouver un objet, les supernovae, dont on maîtrise le comportement afin de s'en servir comme jalon et ainsi mesurer les distances. Mais, car il y a toujours un mais, l'espace entre la Terre et ses supernovae n'est pas vide. De la poussière, qui ne s'accumule pas que sur les télescopes, jonche l'univers, diminuant l'intensité des corps lumineux. Donc il a fallu étudier cette poussière pour comprendre son influence. C'est ce qu'a fait le Dr Emmanuel Gengler au sein du groupe international, la Nearby Supernova Factory. Dr Gengler, bienvenue au fil du savoir.
Bonjour.
Comment fait-on pour calculer les distances ?
Le principe est relativement simple, mais la mise en œuvre est compliquée. Alors, les distances dans l'univers, nous avons fait affaire à des objets qui sont lumineux et lointains. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de prendre un mètre et d'arpenter l'univers. Cela prendrait bien sûr beaucoup trop d'années pour faire la mesure. Donc nous allons observer la lumière des étoiles telle qu'elle nous parvient. Alors cette lumière, le principe est simple, disais-je, plus la lumière est faible, plus on a envie de dire que l'étoile est lointaine, et plus elle est forte, plus on a envie de dire que l'étoile est proche. C'est une méthode qu'on appelle la méthode des chandelles standards. Si vous imaginez quelqu'un qui tient une bougie, en regardant la lumière qui vient de la bougie, vous pouvez dire si la personne est proche ou lointaine, même si tout le reste est plongé dans le noir. Alors tout ça c'est très bien, mais c'est un petit peu théorique, parce que des étoiles, a priori, il y en a des grosses, il y en a des petites, et on comprend tout de suite que ça va un petit peu compliquer la mesure. Donc, nous avons mis en évidence, enfin quand je dis nous, ce sont les chercheurs depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, un type d'étoiles particuliers, qui sont des étoiles explosives, qu'on appelle les supernovas de type 1A, qui ont le bon goût d'exploser avec toujours à peu près la même quantité de lumière produite. Donc on a une espèce d'objet magique, de chandelle magique, qu'on va pouvoir voir extrêmement loin dans l'univers, tout simplement parce qu'un objet qui explose libère d'un seul coup une très très grande quantité d'énergie, et dont la luminosité est connue sur des principes théoriques. Donc ça, c'est un petit peu la base de la mesure. Il y a malheureusement quelques complications, qui viennent du fait que ces objets explosent dans ce qu'on appelle des galaxies, qui sont des ensembles d'étoiles, qui peuvent contenir de la poussière, et la lumière passe à travers la poussière, qui va en absorber une certaine quantité. Une quantité qui n'est pas forcément connue, avec une poussière dont la nature n'est pas forcément connue.
C'est pas la même poussière ici que là-bas ?
Eh bien, c'est quelque chose qui est pas évident a priori. Quand on regarde les supernovas explosées dans des galaxies qui sont extrêmement lointaines, on pourrait se dire que l'évolution des étoiles n'est pas les étoiles n'ont pas évolué autant que maintenant. Car plus on regarde loin, plus on va regarder tôt dans le temps, et on va avoir affaire à un univers qui est plus jeune que l'univers actuel. Est-ce que dans cet univers plus jeune, la taille des grains ne va pas être affectée par l'évolution stellaire ? On pense notamment à la quantité de métaux qui sont produits par les étoiles, mais ce n'est pas la seule hypothèse. Rien n'est moins sûr, et comme toute notre mesure repose justement sur la lumière qu'on reçoit, il est très important de s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur sur cette mesure de distance. Alors pour s'en assurer, pourquoi est-ce qu'on veut avoir des mesures de distance extrêmement précises comme ça ? Tout simplement parce qu'on a observé expérimentalement que les supernovae, plus elles sont lointaines, moins elles sont lumineuses. Ça, on s'y attendait. Mais en même temps, on s'est aperçu qu'elles étaient moins lumineuses que ce à quoi on s'attendait. Et l'interprétation, c'est en termes d'expansion de l'univers, c'est que l'expansion de l'univers, en fait, va s'accélérer. Et elle s'accélère, et c'est un résultat qui est tout à fait incompris. Alors, il est très très important, pour consolider ce résultat, d'être sûr tout simplement de notre mesure, et que ces effets de poussière sont bien compris.
Vous avez parlé de supernova de type 1A, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs types.
Ah oui, il y a une grande zoologie de supernova. En fait, il existe deux grandes classes de supernova. Les supernovas de type 1A, c'est en fait des gigantesques explosions thermonucléaires qui ont lieu dans l'espace et qui s'observent. Alors on les caractérise, on les appelle 1 parce que les supernovas de type 1 sont celles qui n'ont pas d'hydrogène observé, et les supernovas de type 2 sont celles qui ont de l'hydrogène observé. Puis on s'est aperçu que dans les supernovas de type 1, il y avait celles qui avaient de l'hélium 1B, celles qui n'en avaient pas 1A, et puis on a même par la suite mis en évidence une supernova, des supernovas dites de type 1C. En fait, les supernovas de type 2, 1B et 1C sont des explosions d'étoiles, en fait, qui sont liées à la mort d'étoiles extrêmement massives. Et ce sont les phénomènes explosifs auxquels les gens pensent naturellement quand on leur parle de supernova. Le mécanisme est simple. Plus une étoile est massive, c'est-à-dire plus de 8 fois la masse du Soleil, plus la fin de sa vie va être quelque chose de violent et va produire donc des ondes de choc qui vont complètement volatiliser l'étoile. Je simplifie, bien entendu. Les supernovas de type 1A, c'est un autre mécanisme. Ça part d'étoiles qui sont déjà mortes, qu'on appelle des naines blanches, mais qui ont un compagnon, qui orbite autour d'un compagnon, un peu comme les planètes orbitent autour du Soleil, et qui vont peu à peu aspirer de la matière de ce compagnon jusqu'à atteindre une masse qu'on appelle, alors c'est un terme qui est lié du nom de l'inventeur de ce phénomène, la masse de Chandrasekhar, qui est 1,4 fois la masse du Soleil. Et si vous réussissez à prendre une naine blanche et à la faire croître jusqu'à cette masse de Chandrasekhar, eh bien, ça donne une explosion qui explose dans toujours les mêmes conditions initiales et qui résulte donc du, et qui a pour conséquence une supernova qui va avoir toujours la même luminosité émise. Voilà un peu pour les différences entre les supernovas de type 1A et les autres supernovas. Alors effectivement, pourquoi on travaille avec les supernovas de type 1A? C'est parce qu'elles sont très reproductibles, parce que c'est toujours la même quantité de matériaux qui va exploser. Et puis d'autre part, parce que les supernovas de type 2 ont le mauvais goût d'être beaucoup moins lumineuses que les supernovas de type 1A, et donc on les voit moins loin dans l'univers.
Et comment fait-on ce genre d'observation?
Alors, la façon de mener ces observations, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années. Il y a encore une vingtaine d'années, chasser les supernovas était quasiment du travail d'amateur. Il fallait regarder le ciel régulièrement et puis chercher, à l'aide de son télescope, des nouveaux points qui brillaient dans le ciel. Alors c'était pendant longtemps le recordman du monde de la découverte de supernovas, c'était un pasteur australien qui connaissait très très bien le ciel et qui, avec son télescope, toutes les nuits, cherchait des nouvelles étoiles. Il en a trouvé un certain nombre comme ça. Maintenant, on est passé par des techniques qui sont plus industrielles, entre guillemets, qui consistent, à l'aide d'instruments plus ou moins automatisés, avec des caméras CCD, des espèces d'appareils photo numériques extrêmement sensibles qu'on met derrière les télescopes. Et c'est un petit peu toujours la même histoire, on regarde la même portion du ciel toutes les trois nuits en moyenne, on revient dessus, et en faisant de ce qu'on appelle de la soustraction d'images, on a accès à tout ce qui va avoir changé dans le ciel. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir changé dans le ciel, il faut procéder à ce qu'on appelle un nettoyage des données, notamment, vous pouvez imaginer tous les satellites artificiels, mais pas que. Ce qui nous embête le plus pour trouver les supernovas, ce sont les astéroïdes. Les astéroïdes qui tournent, qui sont ces petits corps...
De gros rochers perdus dans l'espace.
Voilà, c'est ça, qui tournent autour du Soleil et qui vont renvoyer une faible fraction du Soleil, mais on cherche des objets qui sont quand même extrêmement loin, donc extrêmement peu lumineux, et donc ils vont apparaître sur l'une de nos prises de vue, et puis qui n'étaient pas là avant. Donc, il y a un certain nombre de nettoyages à faire, et puis à partir d'un certain nombre de critères qui sont l'évolution lumineuse de l'objet, notamment une supernova est en général associée à une galaxie, sa luminosité croît, tandis que l'astéroïde, lui, eh bien, il va défiler, il va passer sur les poses suivantes, il ne sera plus là. On arrive à un lot raisonnablement ce qu'on appelle pur en supernova. Il faut aller quand même assez vite parce que on n'a qu'une dizaine de jours avant que la supernova atteigne son point le plus lumineux, qu'on appelle le maximum de luminosité, puis après elle va s'éteindre doucement pendant quelques mois. Et la mesure, il faut essayer de la faire autour de ce maximum de lumière. Donc à partir du moment où on a détecté un objet qui pourrait être une supernova, il faut réagir assez vite pour faire une mesure de ce qu'on appelle spectroscopie, pour pouvoir vraiment identifier l'objet de façon formelle, en observant justement ces fameuses lignes dans ce qu'on appelle le spectre, qui sont des raies. Alors d'hydrogène, il ne doit pas y en avoir, et on doit avoir également certaines raies liées au silicium qui constituent une espèce de carte d'identité de la supernova et qui permettent de l'identifier de façon inambiguë. Alors le nombre de supernovas trouvées par ce genre de technique, sur la dernière dizaine d'années, maintenant on est... dans le monde, sur toutes les équipes qui cherchent des supernovas, on commence à atteindre entre 700 et 1 millier de supernovas qui ont été enregistrées. Et la prochaine décennie, on devrait arriver à des nombres beaucoup plus grands. Notamment, il y a un projet de télescope automatisé aux États-Unis qui devrait être mis en service vers 2020, qu'on appelle le LSST, qui lui sera une véritable usine à supernovae. On devrait en observer en fait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers.
Le ciel s'ouvre donc.
Donc le ciel s'ouvre et de façon assez incroyable. On en est vraiment aux toutes premières études où on peut vraiment faire ce qu'on appelle des études de statistiques sur les objets. On en observe un très grand nombre dans des conditions presque identiques, ce qui permet justement d'identifier les effets un petit peu subtils comme les problèmes de poussière dont on parlait tout à l'heure.
Docteur Gengler, merci.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Le docteur Emmanuel Gengler est chercheur à l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules. Les travaux réalisés en équipe ont été publiés dans le journal Astronomy and Astrophysics. Une transcription illustrée de cette émission est disponible sur aufildusavoir.fr.